C'est une joie pour moi d'être là ce soir et de vous servir sa parole. C'est toujours un privilège, c'est toujours un honneur et c'est avec joie. Et je sais qu'ici, à l'Église Clé, vous êtes dans cette série qui se poursuit, qui s'appelle Un ciel ouvert. Et c'est tellement important de réaliser ce principe. Mais si le ciel s'ouvre, c'est bien pour une raison. Il faut que, si le ciel s'ouvre sur ta vie, alors il faut que ça se voit ou que ça ressemble à quelque chose. Ce n'est pas juste un concept ou une bonne parole d'encouragement. C'est une réalité. Et ce que j'ai eu à cœur de vous partager, je vais partager chez nous, mais je le ferai d'une autre manière ce soir, s'intitule « Dieu veut te conquérir ». Et souvent on parle de conquête, on va aller à la conquête, on va à la conquête des promesses, on va aller à la conquête de Montpellier, on va aller à la conquête de ce que Dieu a pour nous, c'est super. Mais avant d'aller conquérir un territoire, il faut se laisser conquérir par Dieu. C'est une chose d'être sauvé et c'est une autre chose de laisser Dieu nous conquérir. Beaucoup de gens, oui, ils sont sauvés, mais ils ne laissent pas Dieu les conquérir véritablement. Et Dieu veut te conquérir. Dans Osée 11, verset 4, il est écrit « Je l'ai guidé avec douceur, j'étais attaché à lui par amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. » D'autres versions disent « Je veux à nouveau les attirer par les cordages de mon amour. » Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. La vie chrétienne est une romance d'un Dieu qui t'aime. Et avoir la foi, c'est aller à la découverte de cette romance. C'est expérimenter cet amour qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence. C'est son amour à lui. Parce que la vie chrétienne, c'est une aventure où on apprend à vivre à partir de son amour, où on apprend à vivre à partir de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Où tu apprends à te connaître au travers de cette nouvelle créature que Jésus-Christ a fait. La Bible dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées. Et quand tu apprends à vivre à partir de cet amour, tu laisses son amour te définir. Tu n'apprends plus à te définir à partir de ton passé, mais tu apprends à te définir à partir de ce qu'il est pour toi, en toi et au travers de toi. Et on sait, on le dit, beaucoup l'Église le partage, mais pas beaucoup l'expérimentent. Et mon cœur, c'est que tu puisses vraiment expérimenter cela. Et la meilleure façon de laisser Dieu te conquérir, c'est de laisser son amour te conquérir. C'est une chose d'aimer Dieu. C'est une autre chose de se laisser aimer par Dieu. Et on peut aimer Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aiment Dieu, mais ils ont réellement du mal à se laisser aimer par lui. Réellement, on dit Dieu nous aime, mais il y a plein de mais, il y a plein de questionnements. Et si par la grâce de Dieu ce soir, par le Saint-Esprit, quelques doutes à ce sujet est effacé dans ta vie, ce serait bien. Que tu puisses ressortir de ce lieu en disant « Waouh, j'ai de la valeur y même, je suis plus que jamais conscient. » Dans 1 Jean 4, 19, il est dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il nous a aimés le premier. Donc c'est pour ça que nous l'aimons. C'est parce qu'il nous a aimés le premier qu'on peut aussi aimer en retour. Parce que sinon, on ne sait pas comment aimer. Comme lui, il aime. Et le problème, ce n'est pas d'aimer Dieu, encore une fois. C'est vraiment d'être convaincu qu'on est aimé de lui. Parce qu'on a beau des fois chanter, on a beau des fois le proclamer, le confesser, le déclarer, mais c'est l'expérimenter qui est important. Dans la vie de chaque jour, dans les défis, dans les épreuves. Parce que quand quelqu'un se sait vraiment aimé par Dieu, sa vie change. Son attitude change. Son comportement dans les moments de pression change. Sa façon de parler change. Sa façon de réellement confronter les défis change. Ses relations changent pour le meilleur. Parce que lorsqu'on vient à l'église, comme nous ce soir, pour que Dieu puisse fortifier notre foi, avoir la foi, ça se voit. Ça change le style de vie. Avoir la foi, c'est vraiment pour dire je veux laisser Dieu faire son œuvre pour que je sois différent. Que vous puissiez avoir un moment ce soir, merci d'être là, et vous prenez tous un temps pour être autour de sa parole. Je prie pour que ce moment soit un moment qui compte. Ce soit pas un moment où vous dites ben, je suis venu vraiment parce qu'on m'a invité, donc je viens, mais... Ou écoute, je suis venu vraiment parce que c'est le week-end, après je veux mon dimanche. Parce qu'il ne faut pas venir à l'église par habitude. Il ne faut pas venir à l'église par tradition. Quand tu viens à l'église, c'est parce que tu veux que ta vie change. Quand tu viens à l'église, tu veux que ta foi soit dynamique, agissante par son amour. Quand tu viens à l'église, tu désires entendre sa parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi-là que tu entends fait grandir son amour en toi. Et ça transforme ta vie. Le but d'être assis autour de sa parole, le but comme aujourd'hui de faire l'école destinée comme on l'a fait ici, c'est vraiment qu'à l'écoute de sa parole, notre vie change. Qu'on est brassé, mais dans le bon sens du terme. On est brassé pour être transformé. On est brassé parce qu'on sait qu'on est aimé. Quand quelqu'un sait qu'il est aimé, alors il n'est pas affecté par le rejet de son passé. Quand quelqu'un sait qu'il est aimé de Jésus-Christ, il sait qu'il est pardonné. Il sait qu'il est justifié. Il sait qu'il est accepté. Et donc, lorsque les circonstances ou ceux qui l'entourent le rejettent, ça a moins d'effet sur lui, parce qu'en lui, il sait qu'il est accepté. Et tout ça vient de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut que nous puissions réaliser ô combien il nous aime. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. La clé, c'est comme je vous ai aimé. C'est comme, sais-tu réellement comment il t'aime? Pour aimer les autres, il faut savoir le comme. C'est ça qui fait la différence. C'est comment il t'aime qui fait la différence. Et Dieu vous aime. C'est son cœur. Il a besoin que tu puisses rencontrer cet amour. Je me rends compte que c'est tellement puissant. L'amour de Dieu ne peut être qu'expérimenté vraiment. Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ma question, ce n'est pas uniquement comment tu aimes Dieu, mais c'est comment tu t'aimes comme il t'aime. Parce que jeune et moins jeune, souvent, on a du mal à s'aimer. On a du mal à se sentir accepté. On se sent souvent rejeté. Et on a du mal réellement à s'aimer vraiment. Je n'ai pas besoin de dire, je le sais, c'est comme ça. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Beaucoup de personnes pensent que pour s'aimer, il faut avoir un statut social. Il faut avoir un diplôme pour être quelqu'un. Mais c'est faux. C'est pas ça qui fait la différence. Et il faut, et je prie pour que tu te sentes vraiment aimé de Dieu. Et que tu apprennes à t'aimer comme il t'aime, pour aimer les autres comme il t'aime. Et ma question, c'est que on peut s'aimer, vous savez, de manière très égocentrique. C'est pas de cet amour-là que je parle. Il faut pas s'aimer de manière égocentrique, il faut s'aimer comme il nous aime. Et on va essayer de voir ensemble ce soir comment s'aimer comme il nous aime. Quels sont quelques critères, quelques indications qui vont vous aider à évaluer si vous vous aimez vraiment comme il vous aime. Pas juste de manière égocentrique, mais comme il vous aime. Parce que se laisser conquérir par Dieu, c'est laisser son amour te conquérir. Et ça, c'est totalement différent. Et un des premiers critères, c'est que si tu t'aimes vraiment, tu apprends à vivre à partir de sa capacité et non pas de ton incapacité ou de tes capacités. Parce que la foi nous connecte à sa capacité. Si tu t'aimes vraiment, tu comprends que, oui, par toi-même, tu es limité, mais en lui, il repousse tes limites. En lui, il y a d'autres capacités. C'est en lui, c'est juste incroyable ce que tu peux expérimenter. C'est juste fou. Il est le Dieu du temps, des circonstances. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Et dans les Écritures, j'aime dire, quand Jésus dit aux disciples, lorsqu'il est ressuscité, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut comprendre la chose suivante. Les disciples avaient déjà vu Jésus pendant 3 ans. Ils pouvaient témoigner de dire ce qu'ils avaient vu. Ils pouvaient dire qu'est-ce qu'ils avaient expérimenté. Pourquoi il fallait absolument attendre le Saint-Esprit? Parce que ce que Dieu voulait, c'est qu'ils puissent comprendre qu'ils ne devaient pas s'appuyer sur leur propre capacité à témoigner, c'est-à-dire à dire ce qu'ils ont vu et entendu, mais qu'ils devaient apprendre à témoigner à partir de sa capacité. Mais vous recevrez une puissance. Pourquoi ? Parce que sinon, sans cette puissance de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, on prêche un Jésus historique, théologique. Ce que Dieu veut, c'est qu'on prêche un Jésus présent maintenant. Et que la puissance de sa résurrection soit manifeste. Parce que quand on chante que ce nom est si merveilleux, que ce nom est victorieux, mais il faut la voir cette victoire. Il faut la vivre cette victoire. Il faut vivre la victoire sur le rejet, sur la condamnation, la honte, le mépris. C'est de ça qu'on parle. Sur le non-pardon, la haine. C'est de ça qu'on parle. Et pour ça, on a besoin de sa capacité. Et Jésus dit à ses disciples, mais attendez, mais vous recevrez une puissance. Parce qu'il fallait que cette puissance vienne authentifier la réalité qu'il est vivant aujourd'hui, que le tombeau est vide, qu'il est assis à la droite de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel. C'est le Saint-Esprit qui rend le Jésus des Écritures, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui le démontre, qui l'expérimente, qui nous permet de voir qu'il est vraiment vivant. Et ils ne voulaient pas qu'ils aillent témoigner avec leur propre capacité. Ils voulaient qu'ils témoignent avec sa capacité. Et Dieu veut que tu puisses vivre et apprendre à vivre à partir de sa capacité. Crois-moi, il est plus fort que toi et moi. J'ai bien réfléchi et il est plus intelligent que nous aussi. Je veux dire, même si tout le monde ici, on fait une combinaison de cerveau, ça ne marchera pas. Pour Jésus, encore une fois, 5 pains et 2 poissons, il a fait le calcul, ça nourrit 10 000 personnes. Comme disait Bruno, ah, il n'est pas bon en maths. Hein. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Ok, on a combien? 10 000, c'est bon. 5 000 parce qu'il comptait que les hommes, mais si tu rajoutes les femmes et les enfants, ça fait beaucoup plus. Et donc, j'aimerais te dire, tu sais, ta propre limite dans ta vie, c'est toi. C'est pas les autres. On peut dire, oui, mais si je vis cette vie-là, c'est parce que mes parents, c'est parce que ma famille, c'est parce que voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et je comprends que ça peut laisser des blessures et des séquelles. Je comprends que ça peut être difficile. Mais en réalité, si tu penses comme ça, tu te limites. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour que ce que les autres t'ont fait ne t'affecte plus. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit ici, mais il est bon constamment de le rappeler. Quand un jour, une femme, une sœur est venue me voir, elle me dit, mais Steve, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. C'est pour ça que je ne peux pas réellement, que je suis limité. Parce que ce qu'ils m'ont fait m'empêche de devenir celle que Dieu veut que je veux que je devienne. Et je lui dis, je ne sais pas peut-être moi ce qu'ils t'ont fait, mais je peux constater que tu ne sais pas ce qu'il a fait pour que ce qu'ils t'ont fait ne t'affecte plus. Parce que quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi, wow, servir Dieu, c'est vraiment fun. Souvent on dit, mais servir Dieu, c'est dur, porte ta croix. Porte ta croix. Et puis on dit aux jeunes, vous allez voir comment c'est super, porte ta croix, vous allez goûter. Et puis les jeunes, ils font Mais quand ils commencent à découvrir que Christ en nous l'espérance de la gloire, qu'ils commencent à découvrir par la foi une puissance, qu'ils commencent à découvrir qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour comprendre qui on est et trouver son identité, qu'ils commencent à découvrir que tu n'as pas besoin forcément du service d'orientation de l'école pour t'orienter, même si c'est bien, qu'ils commencent à découvrir que, attends, tu as un appel, une destinée, que tu commences à découvrir, peu importe ton âge, que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 3:20. Que tu commences à découvrir qu'il y a, en lui, tu es capable de faire la différence. Et si tu es différent, c'est pour faire la différence. C'est pas pour avoir honte. C'est pour faire la différence. Que tu sais qu'en lui, tu as de la valeur. Que tu sais qu'il est avec toi, c'est bon. Et c'est ce que Dieu veut. Que tu réalises, que tu entends la parole et que tu vois la gloire de Christ dans sa parole. C'est ça que je parlais, qu'il est l'admirable. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3:18, « Mais nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, parce que nous regardons à visage découvert comme dans un miroir. » Alors nous sommes transformés en la même image. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir ? La gloire. Quand on voit la croix, quand quelqu'un parle de la croix, mais qu'il ne voit pas la gloire de Jésus-Christ pour lui, et qu'il voit, écoute, Jésus a souffert, c'était dur. Hein. Mais qu'il n'a pas compris, comme Paul qui dit, mais s'il fallait me vanter d'une chose, je me vanterais uniquement de la croix de Jésus-Christ pour que le monde est mort pour moi, comme moi je suis mort pour le monde. Jésus a dit, Père, donne-moi la gloire que tu m'as donnée, je vais te glorifier, je vais glorifier ton nom. Quand tu lis les Écritures et quand tu vois sa gloire, quand tu lis les Écritures et tu es frappé par sa bonté, parce que quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, et quand Dieu lui dit, ok Moïse, je vais passer devant toi, je vais te mettre dans le rocher, et je vais juste proclamer ma bonté. Quand tu vois la gloire de Dieu dans les Écritures, c'est que tu vois sa bonté. Et quand tu vois sa bonté pour toi, ça te pousse à te repentir. Tu sais ô combien il t'aime et tu apprends à t'aimer comme il t'aime. C'est pour ça ma prière ce soir, en priant, se dire Seigneur, je te prie que ton esprit de révélation, de sagesse qui révèle ta gloire soit la portion de tout un chacun ce soir. Pour que tu te saches aimé de Dieu. Tu saches que oui, on peut être transformé en la même image de gloire en gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est son cœur. Donc quand quelqu'un s'aime, il cherche à dépendre de la capacité de Dieu. Je veux dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut. Quand, jeune ou moins jeune, quand tu sais que Dieu te remplit, quand tu as goûté à son amour, il n'y a aucune substance sur terre qui égale à ça. Je disais une fois à l'école biblique, il y a des gens qui peuvent avoir une addiction dans tel ou tel domaine, mais être addict à son amour, c'est, tu es addict à son amour. Il y a une addiction avec l'amour de Dieu. Et tu dis ça, je ne peux pas. La Bible dit, teste et goûte ô combien Dieu est bon. Et quand tu goûtes, tu ne peux pas rester le même. Donc, s'il te plaît, ne te limite pas. Ta propre limite, c'est comment tu penses. Et celui qui s'aime vraiment cherche à avoir une foi beaucoup plus grande. Celui qui s'aime vraiment sait que la Bible dit dans 1 Jean 5, 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça parle de quoi? Ça parle de tout ce qui vraiment sort de Dieu, tout ce qui était provoqué par Dieu, tout ce qui prend sa source en Dieu. Triomphe du monde. Et cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ne manquer de foi, en réalité, c'est dire à Dieu qu'on ne croit pas en son intégrité. Parce que c'est dire à Dieu ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Manquer de foi, c'est dire à Dieu, t'es menteur, t'es un menteur. Alors que la foi repose sur l'intégrité de Dieu. Si Dieu dit qu'il t'aime, il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu réalises ça. Il faut que tu le sens, il faut que ça se voit. Je veux dire, j'aime quand les disciples sont envoyés par Jésus, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils sont tout joyeux. Et Jésus appelle ça le pain des enfants. Il appelle ça le pain des enfants. Je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens, il dit à la Samaritaine. Il y a des gens qui attendent de goûter au Jésus qui est en toi. Amen, aurait été bien. Parce que je vous regarde, attends, je vais me goûter déjà. Salé, j'ai transpiré. On ne réalise pas la puissance du potentiel. Quand l'apôtre Paul dit, mais notre capacité vient de Dieu. Je veux dire, mais c'est un truc de fou. Notre capacité vient de Dieu. Je me rappelle quand je suis venu à l'église, tant plus jeune, parce que je suis encore jeune. La première fois, je me rappelle, il y avait une délivrance qui se manifestait. Et j'étais là avec des amis, comme des jeunes qui viennent ce soir invités. Et je m'assois à l'arrière. Et à la fin, le pasteur fait une délivrance. Et je vois personne se manifester. Et moi, avec mes potes, on était là, on fait « Ouais ! C'est bon recevant ça ! » Je dis, c'est quoi ça, l'exorcisme, poltergeist, c'est... Et franchement, je me disais, oh, c'est mieux que dans les films, quoi. Et ça m'avait intrigué. Dernièrement, je racontais ça à la voiture, à l'église. Vraiment, ça dépend de ce que le Saint-Esprit veut faire, mais il y avait un bon moment de puissance. Et le Seigneur a guéri et j'aimerais, si Kali, tu peux partager ton témoignage tout à l'heure, ce serait bien. Ne cours pas, tu peux courir maintenant, mais tout à l'heure, il faut que tu viennes. viens, s'il te plaît. Allez. Elle va partager son témoignage, mais dernièrement, chez nous, il y avait un moment où Dieu a agi et il y avait une femme qui était là, invitée par un frère. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Et sa belle-mère était là et vraiment, elle est très religieuse. Et il y avait beaucoup de gens guéris. Elle disait, mais comment il fait ça, lui? C'est le pape qui doit faire ça. Parce qu'il a reçu ça de Pierre. C'était marrant. Est-ce que tu peux partager ton témoignage, s'il te plaît, Kali? Tu te poses des questions? Alors, Kali, est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as dit ce matin?
J'étais là il y a 4 semaines. Tu étais là il y a 4 semaines et tu as appelé à la fin pour la prière. Moi, j'étais tout au fond à l'accueil. Et précisément, tu as dit, Saint-Esprit voudrait guérir quelqu'un qui a mal au pied. Pour un pied quand même. Mais bon, sachant que je suis infirmière et que je trotte toute la journée, moi, je boitais. J'avais commencé des soins. Et en fait, 4 jours après, j'ai bien dû m'en aller vidange, je n'ai plus mal au pied.
Voilà. Tu n'as pas fait de soumage.
Si, mais c'est dans le placard.
Je veux dire, je vous disais la dernière fois, c'est que Dieu a guéri des gens. Je vous dis, faut témoigner, personne témoigne. Et dans un coin de couloir, si moi j'étais guéri, moi aussi. Je dis, rendons gloire à Jésus quand il guérit. C'est le pain des enfants. C'est pas le pain des pasteurs. Si tu es un enfant de Dieu, tu as droit. Et ça, c'est bon. C'est bon de réaliser ça. Je partageais un témoignage et je vais le faire pour les jeunes. Parce que j'ai déjà fait à l'école, je ne sais pas si je l'ai fait ici, mais c'est bon de le rappeler. J'ai mon frère qui est éducateur spécialisé et il a mis en place une structure qui s'appelle les médiateurs de l'espoir. Et un jour, il va dans un lycée professionnel avec des jeunes qui sont là en formation. Et ces jeunes, à la réunion, à la pause, parlent de sorcellerie. Et ils disent, tu vas voir comment je vais te faire des gris-gris à la réunion, on appelle ça comme ça aussi ici. Vous appelez ça comment? Hocus-pocus, abracadabra? Poc-poc-poc, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Mais à la réunion, on a la religion tamoule qui marche sur le feu et ils font beaucoup de sorts. Donc tu as souvent dans les coins de rue un poulet mort dans un sachet et quand je vois les enfants de Dieu faire ouh un poulet mort, je dis mais c'est quoi le truc? Je dis prends le poulet, brise le sang, jette le poulet et trace ta route. Je veux dire mais on réalise pas qu'il y a plus de puissance dans la bénédiction que la malédiction. On croit plus à l'effet de la malédiction qu'à l'effet de la bénédiction. Il y a un souci. C'est fou de croire plus en l'effet de la malédiction que de croire plus en l'effet de la bénédiction. Il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Quand tu allumes la lumière, les ténèbres fuient. C'est quand on a allumé l'interrupteur tout à l'heure, on n'a pas vu un combat entre la lumière et les ténèbres. Qui dit je viens, je pars, t'es où? Tu allumes la lumière, il y a la lumière. Et c'est comme ça. Et la lumière, c'est la bénédiction. Et donc, ces jeunes-là sont en train de parler de cette religion hindouiste de sort, etc. Et ils sont en train de dire, mais tu vois, moi, si je te fais un sort, là, t'es fini. Et l'autre qui fait, moi, mon sort est plus fort. L'autre fait, mais moi, je marche sur le feu, les gars. Quand je fais un jeûne, là, tu vois, moi, je marche sur le feu. Vous faites ça, vous? Et puis, mon frère est là, il écoute ces jeunes. Et franchement, c'est un show. Bon, mon frère, il est passionné pour Jésus. Il est en feu. Et la puissance du Saint-Esprit, il connaît qu'il ne dépend pas de sa capacité. Donc à un moment donné, il va voir ces jeunes-là, il dit, écoutez-moi, je vais vous dire franchement, le Dieu que vous servez, c'est un perdant. Quand tu dis ça à des jeunes qui sont déjà en train de se quereller pour voir qui a un sort plus fort, tu ne les calmes pas. Tu ne les calmes pas du tout. Donc les jeunes commencent à s'emporter avec lui. « Ouais, monsieur, n'importe quoi que vous prenez, vous savez pas puissance de mon Dieu. Si vraiment vous connaissez, parlez pas comme ça. Je me retiens de pas faire un truc sur vous. Les jeunes, ils y vont, quoi. Mais mon frère, c'était plus fort que lui. Bon, il est dans le cadre du lycée, là, donc il faut qu'il fasse attention quand même. Mais c'était la pause. Donc ils pouvaient quand même. Là, on n'était pas trop sous la laïcité. Ils avaient débordé en plus. Et donc il arrive et confronté, les jeunes commencent à s'attrouper quand ça commence à chauffer là. Donc là, il y a plusieurs qui arrivent, oh, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, il est un peu pris à partie, même si c'est l'éducateur, il ne sait pas trop à un moment donné quoi dire sans trop non plus être comme il est dans l'établissement. Donc, il ne dit pas, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Là, donc, il dit juste, mon Dieu est plus fort. Et quand il dit ça, trois jeunes sont expulsés. Mais quand je vous dis expulsés, c'est pas juste tomber. C'est que ils sont projetés. Deux jeunes se relèvent. Un jeune reste par terre. Il faut appeler l'infirmerie, il faut appeler l'ambulance pour qu'elle rentre chez elle. Les parents et tout ça. Donc mon frère qui était là avec un psychologue, c'est le psychologue qui l'avait employé, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Johnny? Il s'appelle Johnny. Johnny, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, il y avait la pause. Et ils étaient en train de parler entre eux de sort. Et franchement, vous savez, j'ai la foi, quoi. Et moi, c'est la puissance de mon Dieu que je sers. Donc, je suis rentré dans leur conversation et j'ai dit mon Dieu plus fort et voilà. Ce que j'ai aimé, c'est le psychologue qui était là, qui l'a regardé, les jeunes, ils étaient en disant, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez sur vous? Mais monsieur, c'est quoi ça? Et le psychologue lui dit, écoutez, c'est très bien, continuez à les évangéliser. Ce qui était chrétien aussi. Ce que j'aime, c'est que c'est pas, mon frère n'est pas pasteur. Mais c'est un enfant de Dieu qui marche avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est possible et accessible pour chacun d'entre nous. Si tu t'aimes, tu apprends à dépendre de sa puissance. Tu sais que tu en as besoin. Tu cherches à avoir la foi. Tu veux reposer ta vie sur lui. Tu sais que la foi va changer ton quotidien. Tu sais que ça fait la différence. C'est franchement, Dieu ne nous donne pas la foi pour devenir fameux. Il nous donne la foi pour devenir fructueux. C'est pas pareil. C'est les fruits de la foi sont la percée de la victoire en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Parfois, des enfants de Dieu cherchent à être fameux. Le but, c'est pas de chercher à être fameux. C'est chercher à être fructueux. Si en étant fructueux, tu es fameux, gloire à Dieu, mais c'est pas le but. Dieu veut que tu portes du fruit. Parce que le comble, c'est d'être fameux et pas avoir le fruit. C'est compliqué. Si tu t'aimes vraiment à un autre principe, à un autre critère, tu sais te mettre des bons garde-fous dans ta vie. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 32, « Mieux vaut être lent à la colère que puissant, mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. » Quelqu'un qui s'aime, il fait attention à lui-même. Il sait se mettre cette fois-ci des bonnes limites, pas dans sa tête, dans la discipline de vie. Il sait se maîtriser parce qu'il laisse l'amour de Dieu le maîtriser. Quelqu'un qui s'aime laisse l'amour se maîtriser. Et ça, c'est bon. Quand l'amour est au contrôle, c'est juste extraordinaire. Parce que si quelqu'un te fait du mal et que l'amour est au contrôle, alors tu sais que la façon dont l'amour rend justice, c'est qu'il pardonne. Je veux te dire franchement, si tu ne laisses pas l'amour au contrôle, c'est quelque chose d'autre qui risque de te contrôler. La jalousie, la haine, la rancœur, c'est quelque chose d'autre qui risque de te contrôler. Donc, si quelqu'un s'aime, il fait attention et il se met des limites. Il fait attention à lui-même. Un autre critère, quand quelqu'un s'aime vraiment, ou il apprend à s'aimer comme Jésus l'aime, il fait attention de ne pas laisser son orgueil et l'orgueil des autres le dominer. Le psaume 19, 13, le roi David prie et dit, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. » J'aime cette prière. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Ici, le roi David prie et il dit, ne laisse pas les orgueilleux dominer sur ton serviteur. Quand quelqu'un s'aime, il fait attention. L'orgueil peut être la manipulation. Quand quelqu'un s'aime, il fait attention de ne pas se laisser manipuler. Une jeune fille qui s'aime, une femme qui s'aime, fait attention de ne pas laisser séduire par quelqu'un qui réellement a juste un objectif. C'est réellement d'avoir ce que l'homme veut, c'est-à-dire les relations sexuelles, et après, ciao. Par exemple, quand quelqu'un s'aime, il fait attention de ne pas laisser l'orgueil des autres le dominer. Et ce n'est pas si facile. Il faut vraiment que tu saches t'aimer comme Dieu t'aime. Je connais par exemple des familles où le papa, par exemple, aime tellement ses enfants qu'il ne se rend même pas compte qu'il veut rendre les enfants à son image, à lui. Et il veut que les enfants fassent des choses dans leur vie que lui aimerait faire. Et sans s'en rendre compte, c'est de l'orgueil. Et quand le roi David dit « Ne me laisse pas dominer par l'orgueil des orgueilleux. » L'orgueil peut prendre plusieurs formes, bien sûr. Si tu t'aimes, tu fais attention à ça. Ça, c'est une prière que je fais souvent. Seigneur, ne laisse pas mon orgueil, l'orgueil des autres, dominer sur moi. Quand quelqu'un s'aime, surtout un homme, si un homme s'aime vraiment, il aime sa femme. Éphésiens 5, 28. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen, les frères. Amen, les sœurs. Ah ben oui. Les femmes, vous devriez dire, ouais, tu as compris là? Si ton mari est à côté, tu as compris? Ça se voit que tu t'aimes pas trop encore, toi. Parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc une façon de voir si quelqu'un s'aime, c'est comment, notamment un homme, comment il traite son épouse. Je veux dire, Dieu a tiré Ève d'Adam. Quand Adam a vu Ève, la Bible traduit ça, « Oh, voici les os de mes os, la chair de ma chair. » C'est pas ça vraiment. En hébreu, c'est « Waouh, waouh, waouh !» C'est Adam fait « Purée, Dieu, tu es Dieu. » Là, tu t'es dépassé. Franchement, j'ai donné les noms aux animaux, dauphins, petits chiens, la girafe et tout ça. Franchement, c'était beau tout ça. Hein. Mais là, c'est le summum. Mais j'aime bien la parole de Dieu, c'était les os de mes os, la chair de ma chair. Et on peut lire ça de manière très religieuse. C'était les os de mes os. Ouh, alléluia. C'était la chair de ma chair. C'est pas ça du tout. Adam était un homme normal, il l'a fait. C'est quoi ça? Il disait, mais ça sort d'où ça, Seigneur? Ben, ça sort de toi. Ça sort de ton côté. Ce côté féminin qui était en toi, j'ai ressorti. C'est un frère vient me voir, me dit, moi j'ai un peu un côté féminin parfois. Je dis, ah non, elle est déjà sortie. Et ton vis-à-vis maintenant. Et quand quelqu'un, quand un homme s'aime lui-même, marié, il aime sa femme. Je veux dire, parce que je parle de vis-à-vis, je regarde par exemple moi, mon épouse, je me dis, mais elle est, c'est une amie, une collaboratrice, une partenaire de jeu, vraiment vraiment une partenaire de voyage. C'est, elle est magnifique, pas uniquement physiquement, mais c'est ma femme. Et quand je lui parle, elle est là pour me protéger, m'aimer. Elle est là pour vraiment même scanner ce qui se passe. On est là à partager, elle a un discernement formidable. Ce qu'elle voit, je ne vois pas. Et c'est juste phénoménal. Et c'est ce que Dieu veut. Quand ma femme m'appelle, même les gars voient en général sur WhatsApp qu'on m'appelle, je suis comme Adam, moi. Quand ma femme m'appelle, je fais chérie. Je prends une photo d'écran. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme soit toujours épris de sa femme. Parce qu'on peut laisser tellement la familiarité, la distance et l'indifférence nous dévier et laisser nos pensées aller méditer sur d'autres femmes. Que si on n'est pas intentionnel pour aimer son épouse, alors on peut aller à la dérive. Et quelqu'un qui s'aime lui-même aime sa femme. Un autre point, si tu t'aimes vraiment, tu cherches à être libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Libre de la culpabilité, libre de la condamnation, libre de la jalousie, libre de la rancœur, libre de la haine, libre du mépris, libre du rejet. Tu cherches à libérer ton âme de ces choses-là. Libre d'une mauvaise image de toi, libre d'une mauvaise façon de penser. Si quelqu'un s'aime lui-même, il cherche à être libre de ces choses-là. Pour pouvoir aimer vraiment. Il cherche à dire non, je ne peux pas laisser la haine me ronger. Je ne peux pas laisser la vengeance me ronger. Je veux être libre de tout ça. Quand quelqu'un s'aime, il cherche à être libéré de ces choses-là. Et c'est ce que Dieu veut. Et franchement, toute notre vie, si on ne comprend pas ça, même les stars, il y a des stars qui ne s'aiment pas. Le succès, ce n'est pas juste être populaire. Tu peux être populaire et te détester. Il y a des gens populaires qui se suicident après. Parce qu'on croit que c'est ça le succès. Non, le succès, c'est s'aimer selon Dieu. Et s'aimer comme il t'aime. Parce que là, tu es vraiment libre. Parce que tu te sens accepté de lui. Quand quelqu'un s'aime vraiment, non seulement il cherche à être libre, mais il cherche à réellement avoir une connaissance qui produit la vie. Vous savez, par exemple, chercher à avoir raison ne produit pas forcément la vie. Tu peux avoir raison, et le fait que tu as raison, tu as quand même totalement tort. Un exemple. Vous pouvez vivre une injustice, aller en procès contre des gens, gagner le procès, parce que vous avez raison. Mais si vous gardez du non-pardon, même en gagnant le procès, ça ne produira pas la vie. Parce que vous n'allez pas être libéré de la rancœur et de la haine, même quand vous avez gagné le procès, même si on a prouvé que vous avez raison, même si on a prouvé que vous avez été juste dans cette affaire. Et il faut chercher, quelqu'un qui s'aime vraiment, cherche toujours à produire la vie, à avoir du bon sens qui produit la vie. La Bible dit dans Proverbe 19, 8, acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Et le bon sens, c'est quoi? C'est que tu cherches à produire la vie dans tes relations. Tu ne cherches pas toujours à avoir raison. Vous savez, avoir raison, ce n'est pas une question de bien ou de mal, ce n'est pas une question juste de bon ou mauvais, ce n'est pas une question de faux ou vrai, c'est une question de réellement une vérité qui apporte la vie. Parce qu'on a appris à juger à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, ça vient quand même du péché, qu'on le veuille ou pas. Et on a été privé de l'arbre de vie. Mais parfois, savoir dire pardon, même quand tu as raison, ça produit plus de vie dans la relation, notamment dans le couple, que de dire, t'as vu là, c'est moi qui ai raison. Hein? T'as entendu le pasteur, c'est pour toi ça. Non, c'est, cherche la vie, qu'est-ce qui produit la vie? Qu'est-ce qui produit la vie dans ton couple? Qu'est-ce qui produit la vie dans ta famille? Qu'est-ce qui produit la vie? La vie en Jésus-Christ, c'est vraiment une vie abondante. La vie de foi, c'est une vie top. C'est une aventure phénoménale. C'est de voir la puissance des miracles, des signes, des prodiges se manifester. C'est de voir Dieu changer les circonstances. C'est dans l'adversité, il est ta paix, il est ta joie. C'est que tu sais que tu gardes l'espoir. C'est ça la vie de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est désespéré, franchement, il n'a pas la vie de Christ. Si tu manques ce soir d'espoir dans une situation, c'est que tu crois à un mensonge. Parce que ce n'est pas possible de croire en la vérité de Jésus-Christ et manquer d'espoir. Parce qu'il est le Dieu des miracles, des signes, des prodiges. Là où toi, tu ne sais pas comment faire, si tu gardes la foi, Dieu a toujours mille et une solutions lorsque nous, on n'a aucune solution. Il faut juste croire. Parce que c'est son cœur. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. Le petit bébé est content. Et c'est bon d'avoir la vie. Dernièrement, par exemple, avec certains frères dans certaines de nos équipes, je suis allé les voir pour vraiment leur demander pardon de quelque chose que... Juste dire, pardonnez-moi les amis, je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais en réalité, je ne fais aucune erreur. Je suis coupable de rien. Mais je disais à Bruno, aux amis, je dis, je vais le faire quand même. Parce que ce n'est pas pour avoir raison, c'est pour les gagner à Jésus. Je préfère demander pardon, alors que je sais que je ne suis pas fautif. Mais le fait de l'avoir fait, ça a baissé la garde de certains. Parce que ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort. Ils avaient entièrement tort. Et c'est vrai en plus. Entièrement tort. Mais ce que je voulais, c'est les gagner. Ce que je voulais, c'est l'unité. Jérémy, t'es encore là. Ce que je voulais, c'est les gagner. Donc je dis, ok, je vais le faire. Seigneur m'a convaincu, me dit, tu veux avoir quoi? Tu veux avoir raison? Ou tu veux vraiment les aider? Je dis, je veux les aider, Seigneur. Elle m'a demandé pardon. J'ai raison. Oui, mais ça ne porte pas la vie. Parce que la lettre tue, mais l'amour édifie. Et j'aime dire que le pardon, c'est l'amour qui fait justice. C'est tellement vrai. Celui qui s'aime lui-même dompte ses peurs. On a tous des peurs. Celui qui s'aime lui-même dompte ses peurs. Il ne laisse pas la peur le paralyser. Il ne laisse pas la peur le dompter. Il ne laisse pas la peur le clouer sur une chaise. Il ne laisse pas la peur décider de sa vie. Il ne laisse pas la peur du futur faire la différence. Il ne laisse pas la peur du manque, la peur de la mort, la peur, je ne sais pas, du noir. Il ne laisse pas ses peurs le bloquer. Si tu t'aimes toi-même, triomphe de tes peurs. Que tu sois jeune ou que tu sois âgé, quand quelqu'un s'aime, tu ne peux pas laisser ta peur te paralyser. Je disais à un ami non chrétien la semaine dernière, il me disait, mais Steph, je veux changer de boulot, je veux changer de vie. Je dis, c'est super. Je dis, mais tu m'as dit ça l'année dernière, il y a 2 ans. Et je suis sûr que si je reviens l'année prochaine et qu'on reparle de ça, tu vas me dire la même chose. Et il me regarde, il me fait, bah ouais. Je fais, tu sais pourquoi tu vas me dire la même chose? Tu sais pourquoi tu ne changes pas de vie? Parce que tu as peur. Je dis dans l'amour. Hein. Je dis, mon ami, c'est pour toi que je dis ça, tu as peur. Et comme tu as peur, tu es cloué dans ton boulot que tu n'aimes pas. Parce que tu as peur de comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Tu as peur. Et si tu ne changes pas, si tu ne triomphes pas de ta peur, l'année prochaine, dans 2 ans, tu vas revenir me voir pour me dire « Mon boulot m'énerve, tous les gens sont sous pression, c'est impossible de travailler, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais comment tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Il y a aussi ça payé, il y a ça. » Je dis franchement, je comprends. Mais quelqu'un qui s'aime ne laisse pas ses peurs le paralyser. Il cherche à triompher. Il cherche à gagner du courage. L'amour de Dieu, quand tu sais que Dieu t'aime, ça te donne du courage. La Bible dit dans 1 Jean 4, 18, il n'y a plus de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc lorsque je sais que j'ai peur de quelque chose, je dois grandir. Il faut arriver à avoir cet amour qui triomphe de nos peurs. Cet amour qui nous donne du courage. Mais franchement, si tu veux que ta vie soit une vie puissante et fun, il faudra du courage. Parce que les tempêtes, elles arrivent pour tout le monde. Si quelqu'un ici dit, mais moi, je vais éviter toutes les tempêtes. Bah, écoute, comment te dire ? À mon avis, il y en a une qui va tarder à arriver. Ça arrive pour tout le monde. Et il faut du courage pour triompher de ses peurs. Il faut un courage, j'appelle ça moi, obstiné pour relever les défis. Quelqu'un qui s'aime se challenge lui-même. Quelqu'un qui s'aime se met des défis. Impossible. Quelqu'un qui s'aime rêve grand. Quelqu'un qui s'aime ne veut pas une vie banale. Quelqu'un qui s'aime sait qu'il a un temps de vie pour faire la différence et il est prêt à relever les défis. J'y vais, j'ai la foi pour faire la différence. Dieu avec moi. Je suis une lumière. Je suis le sel. Et encore une fois, ce n'est pas le sel de la conspiration. Tu as besoin d'une quête dans ta vie. J'aime dans le mot conquête, il y a le mot quête. Tu as besoin d'une cause. Quelqu'un qui s'aime pense plus grand que juste ses besoins. Quelqu'un qui s'aime veut servir une cause parce qu'on a besoin de challenge, on a besoin de défi. On a besoin de quelque chose qui te sorte de ton lit. C'est pas juste, ah ben là il faut aller au travail. Le réveil sonne, ben, c'est le réveil qui m'a sorti du lit. Et tu vas au boulot, comme on dit à Paris, métro boulot dodo. Mais, si tu veux que ta vie ait du goût, là, si tu veux que ta vie compte, ben, mets-toi des challenges, rêve grand. La parole de Dieu dit, mais quand, à la fin des temps, mon esprit tombera sur toute chair, les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions, des rêves. Ça part de cause d'une quête. Dire jeune ou moins jeune, il ne faut pas vivre la vie comme un touriste. Mais il ne faut pas venir en tant que chrétien et vivre la vie chrétienne comme des touristes. Je viens à l'église, tu sais, j'ai visité cette église, elle est bien. J'ai visité cette église, elle est pas mal. Là, il y a un bon accueil. Ah, là, par contre, je n'ai pas très bien accueilli. Oh, la louange dans cette église, elle était comme ça. Et la louange dans cette église, bon. Mais tu fais quoi de ta vie ? Quelqu'un qui s'aime se challenge, il pousse la cause de Christ, il met une quête en place, il est drivé par ça. Ça le réveille le matin, ça le sort de sa zone de confort, ça le pousse à se surpasser, ça le met en mouvement, pas demain, maintenant. Si tu t'aimes comme Jésus t'aime, c'est à cette quête. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À cause, il y a une cause. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14, mais l'amour de Christ nous presse. Je suis heureux d'être avec vous ici à Montpellier. Mais ce qui me presse, c'est sa cause. ce qui me conduit à faire 11 heures de vol plus une heure pour venir ici, c'est sa cause. C'est pas les finances, je suis pas payé pour l'école. C'est sa cause. Et je fais des heures pour l'école. Et je paye le prix avec ma famille pour l'école. Pour zéro salaire. Et je dis pas ça pour me vanter, pas du tout. Je dis ça pour vous provoquer, j'espère. Parce que c'est sa cause me drive. Il faut gagner les gens pour Jésus-Christ qui souffre. Ils connaissent pas son amour. Ils réalisent pas en combien il est bon. Et il n'y a que le Seigneur qui est capable de changer les cœurs. Et c'est ce que Dieu veut, une cause qui... C'est ça qui me réveille le matin. Ce matin comme demain matin, quand je me réveille. Oh, et j'ai passé une bonne nuit de semaine, gloire à Dieu. Je suis aux étudiants, mon corps m'a remercié ce matin en me réveillant. Tellement, c'était bien de se reposer. Mais quand je me réveille le matin, je me dis, Seigneur, tu me donnes la grâce et l'opportunité de partager ta parole aujourd'hui à des étudiants qui ont soif, qui sont prêts à venir toute une journée à bronzer à la lumière de ta parole. Ils sont prêts à venir toute une journée à bronzer sous les UV de la lumière de sa parole pour prendre les couleurs de son amour. Amen. Comme je dis, tu ne peux pas rester une journée au soleil, même avec la crème solaire, en plein été, sans bronzer. Surtout à La Réunion. À La Réunion, tu poiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais si tu te prends un coup de soleil de ouf, parce que les UV sont très forts. Et j'aime dire, quand tu restes une journée à la lumière de la parole de Dieu, tu poiques aussi. Mais tu poiques avec son amour. Donc quelqu'un s'aime lui-même, cherche une cause. Il veut servir une cause plus grande que lui. Quelqu'un qui s'aime lui-même, on a déjà vu, cherche toujours à triompher du mal par le bien. Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Là, on a besoin de sa capacité. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Franchement, est-ce que c'est facile ça? Est-ce que c'est instinctif ici, quelqu'un te haït, tu fais, je vais le faire du bien. Ça, c'est en toute logique. Écoute, je vais faire du bien, comme il ne m'aime pas, je vais le faire du bien. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en général, sur le parcours de la vie, on rencontre tous des gens qui ne nous aiment pas. Donc, on a tous l'opportunité de faire du bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Ça parle afin que vous ayez une identité affermie. Et vous soyez établi dans son amour. L'homme bon fait du bien à son âme. Fais du bien à toi-même. Aime-toi un peu plus, s'il te plaît. Comment ? Commence à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que je l'ai déjà dit ici, celui qui ne pardonne pas ne s'aime pas. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu laisses la rancœur ronger ton âme. Fais pas ça. Quand quelqu'un s'aime, il cherche toujours à entretenir les relations qui l'entourent. Jean 4, 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton frère. Vous savez, la plupart des bénédictions que Dieu veut nous donner va toujours être réalisée au travers des autres. va toujours être réalisé au travers des autres. Essaye de repenser à des bénédictions que tu as reçues, tu vois. Il y a sûrement quelqu'un derrière. Quand quelqu'un sème, il préserve les relations. Il cherche à entretenir les relations. Parce que celui qui aime Dieu aime son frère. Autant que cela est possible, si ton frère ne t'aime pas, ben, tu ne peux pas faire autrement. Mais si toi, tu apprends à l'aimer, ça fera la différence. Quand quelqu'un sème à notre critère, il fait une recherche coriace de la sagesse. Il cherche la sagesse de Dieu. Parce que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. La sagesse est un arbre de vie, Proverbe 3, 18, pour ceux qui s'attachent à elle. La sagesse te permet de ne pas chercher à avoir tort ou raison. Elle produit la vie. La sagesse d'en haut produit la vie. C'est plus que du bon sens. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc quand quelqu'un sème vraiment, il craint Dieu. Il n'a pas peur de Dieu, hein, c'est pas pareil. C'est une sainte révérence, un saint respect, c'est un saint amour. C'est un amour mélangé de respect, de crainte, d'honneur. C'est dans ce sens. Laisse Dieu te conquérir. Laisse Dieu t'aimer. Apprends à t'aimer comme il t'aime. Laisse-le. Laisse-le faire la différence dans ta vie. Laisse pas les peurs te paralyser. Laisse son amour devenir parfait pour chasser les peurs. On en a tous des peurs. Enfin, mes enfants viennent me voir, me disent, papa, tu n'as pas peur, toi? Je dis, si. Quand j'ai des peurs, je vais dans sa présence et je vais tout faire pour qu'il enlève mes craintes et mes peurs et qu'il me donne cette paix enracinée dans son amour pour que je puisse faire les choix qui l'honorent. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je vais vous donner quelques... Je terminerai là-dessus. Est-ce que le groupe peut bien venir, s'il vous plaît, si c'est possible? La crainte de Dieu, c'est quoi? Quand quelqu'un vraiment craint Dieu, écoutez les effets. Et après, je vais vous montrer les effets de quelqu'un qui craint l'homme. De quelqu'un qui... est conduite par des peurs. Quand quelqu'un craint Dieu, il est actif. La crainte de Dieu nous préserve du mal. La crainte de Dieu nous met dans une attitude constante de repentance. La crainte de Dieu nous donne accès à sa sagesse. La crainte de Dieu nous rend plus sensibles à la conduite de son esprit. La crainte de Dieu cultive l'honneur envers Dieu et envers les autres. La crainte de Dieu nous presse à rester humbles. La crainte de Dieu nous aide à rester conscients que Dieu est ton audience principale. La crainte de Dieu contribue à éliminer les distractions qui affectent ta relation avec lui. La crainte de Dieu te contraint, dans le bon sens du terme, à protéger une intimité forte avec lui. La crainte de Dieu chasse la crainte de l'homme. La crainte de Dieu t'apprend à dépendre de lui et à réaliser qu'il prend soin de toi. La crainte de Dieu fortifie ta capacité à t'abandonner entre ses mains. La crainte de Dieu favorise les changements et la transformation à son image. La crainte de Dieu t'enseigne à voir sa gloire dans ce qu'il dit et fait. La crainte de Dieu agit comme une force, un moteur qui t'aide à faire la volonté de Dieu. La crainte de Dieu rend présent devant tes yeux, les yeux de ton esprit, sa présence. La crainte de Dieu préserve ta langue du mal et te fait éviter bien des tourments. La crainte de Dieu est un remède contre l'envie. La crainte de Dieu te rend courageux pour faire face aux hommes. La crainte de Dieu te fait grandir dans l'amour. Maintenant, la peur ou la crainte de l'homme. Lorsqu'on a peur des hommes, on a peur, c'est un réel problème. La peur ou la crainte de l'homme te pousse à l'inaction ou à la mauvaise action. La peur te paralyse. La peur te déconnecte de Dieu. La peur va te rendre confus. La peur attire l'oppression. la dépression est pire. La peur te pousse à faire le mal. La peur t'empêche de dépendre de Dieu. La peur vient étouffer ta foi. La peur te fait parler beaucoup et donc pécher beaucoup. Quand quelqu'un a peur, il parle. Hein. En général, et puis il dit n'importe quoi. La peur, en général, nous rend peureux, bien sûr. Au lieu de courageux, la peur donne gloire à l'ennemi. La peur fait la guerre à ton âme, dans ta vie. La peur te focalise sur ta capacité ou ton incapacité humaine. La peur te pousse à jalouser et à haïr les autres. La peur vient réellement corrompre notre intelligence. La peur vient pervertir notre morale. La peur endurcit le cœur. La peur consolide l'égocentrisme. La peur alimente l'orgueil. La peur te pousse toujours à accuser les autres pour te justifier. La peur alimente des rivalités. Donc, choisis la crainte de Dieu. Si tu t'aimes comme Dieu t'aime, choisis la crainte de Dieu. Réalise venir à l'église, écouter sa parole, être un enfant de Dieu. Il faut que ça change ton quotidien. Il faut que ça change tes habitudes. Comment? En te changeant de l'intérieur. En changeant la perception que tu as de toi. Arrête, s'il te plaît, de laisser ta vie passée te définir. Ça dépend de ta foi. Laisse son amour te définir. C'est son amour qui doit te définir, pas tes parents, pas tes amis. C'est lui qui te définit. Gloire à Dieu après pour les amis et les parents. Laisse-le te définir.